Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Yebamot, page 26, Daf Kaf Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Donc on voit que celui qui transgresse un interdit qui résulte d'une rumeur n'est pas demandé à la divorcer. Alors, de même pour notre question, l'interdit n'a été établi que pour éviter de la médisance des rumeurs contre l'envoyé ou le sage. Donc c'est un interdit qui résulte des rumeurs et il n'est pas appliqué à la lettre au cas où il a été transgressé. Et ici se termine le cours du Daf Yomi, du Daf Café. Maintenant, on va commencer, Bezrat Hashem, par la dernière Mishnah de ce chapitre, le cours du Daf Yomi, du Daf Kaf Vav. Nous commençons la Mishnah. Le Kulam Shayu Lahem Nashim Umetu Mutarot Dinase Lahem. Toutes ces personnes concernées par le soupçon, c'est-à-dire l'envoyé qui est venu avec le guet, avec la lettre de divorce d'outre-mer, et le témoin qui a témoigné que le mari de cette femme est morte, et le sage qui n'a pas réussi à défaire une femme de son vœu, donc toutes ces personnes concernées par le soupçon, et donc dans l'interdit d'épouser les femmes dont il est question, si au moment de l'acte, ces personnes étaient mariées, quand l'envoyé a rapporté cette lettre de divorce d'outre-mer, il était marié, et quand le témoin a témoigné, il était marié, et quand la femme s'est présentée devant le sage, il était marié, et leur femme est morte, alors ils ne sont pas concernés par le soupçon, et ils pourront épouser les femmes en question. Personne ne va les soupçonner d'avoir fait ce qu'ils ont fait pour épouser ces femmes, étant donné qu'ils étaient à ce moment-là mariés. De même, si ces femmes-là qui sont concernées par le soupçon, celles qui ont été divorcées par l'envoyé, et celles dont le témoin a témoigné son veuvage, et celles que le sage n'a pas réussi à défaire de son vœu, si par suite au divorce ou au veuvage, ces femmes se sont mariées à une tierce personne, et après cela ils ont quitté leur mari par suite d'un divorce ou d'un veuvage, ils pourront être épousés par l'envoyé, le témoin ou le sage. Grâce à la tierce personne, il n'y a plus de soupçons. Zokula muterot livnehem ou la achem. Et de toute façon, même quand l'interdit existe, il n'existe que vis-à-vis de ces personnes, de l'envoyé, du témoin et du sage. Néanmoins, ils pourront être épousés par les enfants ou les frères du témoin, de l'envoyé et du sage. Nous commençons la Gemara. Metu in nidgar shulo. La Gemara reprend le début de la Mishnah. Si tous ces hommes étaient mariés, l'envoyé, le témoin et le sage étaient mariés, et leur femme est morte, ils pourront épouser ces femmes-là. Et on déduit de la Mishnah, qui disait « Vekulam shayu lahem nashim umetu » et tous ces hommes qui étaient mariés à des femmes et leurs femmes sont mortes, que ce n'est qu'au cas où leurs femmes sont en effet mortes. Mais s'ils les ont divorcées, ils ne pourront pas épouser les femmes qui étaient l'objet de l'envoyé, du témoin et du sage. Étant donné qu'ils vont être soupçonnés d'avoir divorcé leurs femmes pour prendre cela. Alors, Amar le Rav Hillel le Ravashi, Rav Hillel a demandé à Ravashi, « Vatania afilu nidgarshu » On a appris dans la Braïta que même si ces personnes ont divorcé leurs femmes, ils pourront épouser ces autres femmes. Répond la Gemara, lo kashia. Ce n'est pas une question. Had avaiktata, had lo avaiktata. Si la procédure du divorce, ce que la Gemara appelle la dispute entre le mari et la femme, a commencé avant que se présente le guet à envoyer, le veuvage à témoigner et le vœu à défaire, alors en effet, même s'ils ont divorcé leurs femmes, ils auront le droit d'épouser ces autres femmes, ils ne sont pas soupçonnables. Personne ne va dire que le divorce a eu lieu pour pouvoir épouser ces nouvelles femmes. Tout le monde sait que le divorce a été déclenché avant. Mais au cas où la procédure du divorce n'a pas encore commencé, la dispute n'a pas encore commencé, dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, il y a lieu à craindre les soupçons, les propos calomnieux, et en effet, ils n'auront pas le droit d'épouser les autres femmes. Veiba et Tema, si tu préfères une autre réponse, Havea de l'or avec Tata. Dans la Mishnah et dans la Braïta, on parle du cas où la procédure du divorce n'avait pas commencé. Velo kashia, et cela n'est pas une question. Adar gilhu, adar gilahi. Dans la Mishnah, on parle du cas où c'est l'homme qui a déclenché le divorce, qui a déclenché la dispute, et donc il est soupçonnable, il est suspect, et s'il vient à divorcer, il ne pourra pas épouser l'autre femme. Tandis que dans la Braïta, il s'agit du cas où c'est elle qui a déclenché la dispute, c'est la femme qui a déclenché la procédure du divorce, et donc l'homme n'est pas soupçonnable. Personne ne va le suspecter d'avoir divorcé pour prendre l'autre femme. Ce n'est pas lui qui a voulu le divorce. C'est pour cela qu'au cas où a lieu le divorce, ils pourront épouser les autres femmes. La Mishnah avait dit, « Vekulam shenissu vekulu » et toutes ces femmes, celles divorcées par l'envoyé, et celles mises en veuvage par le témoin, et celle qui n'a pas pu se défaire de son vœu, s'ils se sont mariés à une tierce personne et ils ont de nouveau divorcé ou leur mari est mort, ils pourront être épousés par l'envoyé, le témoin et le sage. Au début, on pensait interpréter la Mishnah de la façon suivante. Le cas de la mort se rapporte sur le veuvage précédent et le cas du divorce se rapporte sur le divorce précédent. Je m'explique. On avait vu dans la Mishnah du Daf Kafé Amoud Aleph deux cas. Celui de l'envoyé qui vient divorcer une femme et celui du témoin qui témoigne que le mari de cette femme est mort. Et c'est à propos de cela qu'on a dit dans notre Mishnah. Si ces femmes-là se sont mariées à une tierce personne et ont divorcé, ce divorce-là est suite au divorce antérieur. La femme qui a été divorcée par l'envoyé est remariée à une tierce personne, redivorce, ou bien si leur mari est mort et ils sont devenus veuves, ce veuvage-là suit le veuvage antérieur. La femme qui a fait l'objet du témoignage d'avoir perdu son mari et s'est remariée à une tierce personne vient de le perdre, son mari est de nouveau mort. Alors ces femmes-là pourront épouser l'envoyé et le témoin, donc pourront épouser une troisième personne. Donc en suivant cette interprétation, on va devoir dire que la Mishnah ne partage pas l'opinion de Rabbi. De Rabbi, car en effet, d'après l'opinion de Rabbi, on a une divergence très connue entre Rabbi et d'autres Tanaïm, à partir de combien de fois qu'une chose se répète, elle sera toujours considérée comme dans son état antérieur. D'après Rabbanan, au bout de trois fois. Tandis que d'après Rabbi, au bout de deux fois. Je cite un exemple. Si une femme s'est mariée trois fois, et chaque fois son mari est mort, d'après tout le monde, elle n'a plus le droit de se marier. Elle est considérée comme une femme tueuse. On regarde l'état antérieur de ses mariages, et on dit que cette femme a le pouvoir, malgré elle, de causer la mort de son conjoint. Et donc, elle ne peut plus se marier. Tandis que si elle s'est mariée deux fois et ses maris sont morts, d'après Rabbi, le statu quo de cette femme est établi, elle est une femme tueuse, elle ne peut plus se marier. Tandis que d'après Rabbanan, elle ne l'est pas. Et on lui donne encore une chance. Alors si la Mishnah a permis à la femme qui a perdu son mari deux fois, une fois au témoignage et une fois son union avec la tierce personne, la Mishnah lui a permis de se marier avec le témoin, donc elle ne partage pas l'opinion de Rabbi. D'après Rabbi, comme on l'a déjà expliqué, le statu quo de cette femme est établi, elle est une femme tueuse, elle ne peut plus se marier. Répond la Gemara, non, l'interprétation est différente. Lo, mita girushin, ve girushin amita. Le veuvage suit le divorce, et le divorce suit le veuvage. La femme qui antérieurement a été divorcée par l'envoyé, et s'est mariée à la tierce personne, l'a quittée suite à un veuvage, et la femme qui a été libre antérieurement suite à un veuvage, et s'est mariée à la tierce personne, l'a quitté suite à un divorce. Et donc, il n'y a pas eu de répétition de divorce ou de veuvage. Et même d'après Rabbi, le statu quo de cette femme n'est pas établi. La Mishnah avait dit, « V'kula mutarot livneem ou l'achem. » De toute façon, ces femmes pourront épouser les fils ou les frères de l'envoyé, du témoin et du sage. Demande la Gemara, « Mishnah va de Tania. » Pourquoi cela diffère-t-il de la vraie qu'on a vue ?« Hanitan minaisha asur beima ou bebita ou beachota. » Celui sur qui circulent des rumeurs d'avoir fauté avec une certaine femme, il ne pourra épouser ni sa mère, ni sa fille, et ni sa sœur. Alors en fait, la question n'est pas si simple que ça. Et je vais l'expliquer comme l'explique le Rashi. Pourquoi en effet la personne concernée par les rumeurs ne pourra pas épouser la fille, la sœur ou la mère de la femme en question? De peur qu'en effet, les rumeurs sont justes. Et cette femme est sa maîtresse. Et une fois qu'il va épouser sa sœur, sa mère ou sa fille, cette femme-là lui devient inceste. Elle est ou la sœur, ou la fille, ou la mère de sa femme. Étant donné qu'il est habitué avec elle, il y a lieu à craindre que leur relation illicite va continuer. Et cela sera un interdit très important. Alors pour éviter cela, on l'interdit d'épouser la sœur, la mère et la fille de cette femme. Alors demande la Gemara, pourquoi il est permis aux proches, aux fils ou aux frères des hommes concernés par le soupçon d'épouser ces femmes, il y a lieu à craindre qu'effectivement un lien s'est formé entre ces hommes et ces femmes, et pour éviter le soupçon, ces hommes ne les ont pas épousés, mais ont demandé à leurs frères de le faire, pour les avoir à proximité, et donc cela aurait dû être interdit. Répond la Gemara, Nashi le Gabé Nashi, Shikhan d'Azlan, Gavri le Gabé Gavri, le Shikhan. Les femmes de la même famille vont couramment se visiter l'une l'autre, tandis que les hommes ne vont pas se visiter couramment les uns les autres. Par conséquent, même si on dit à l'homme, ne te marie pas à la sœur de ta maîtresse, étant donné que ta fréquentation devenue inceste est courante, ce n'est pas une raison de dire à un frère, n'épouse pas cette femme qui est interdite à ton frère, leur fréquentation ne va pas être courante. Ton frère ne vient pas souvent te visiter. Une amie, ou bien une autre réponse, Nashid lo asran shriftana adadi, lo kabdana adadi, gavran da asran shriftana adadi, kabde adadi. Les femmes le prennent moins à cœur que les hommes. Un homme qui a une relation avec une femme qui lui est inceste, c'est son problème à lui. Cela ne le rend pas interdit vis-à-vis de sa femme. En fonction de cela, ça la dérange moins. C'est pour cela qu'il a été interdit à l'amant d'épouser la sœur de sa maîtresse. Étant donné que si les relations illicites avec sa maîtresse vont continuer, cela ne va pas tellement déranger sa femme. Son mari ne lui est pas interdit. Et elle ne va pas faire cesser ses relations. Tandis qu'un homme le prend à cœur. Si sa femme commet un adultère, elle lui devient interdite. Et donc, il va bien la surveiller et ne va pas la laisser commettre un adultère. Alors, on a pu permettre aux proches des hommes concernés par le soupçon d'épouser ces femmes. Et même si les suspects vont essayer quoi que ce soit, les maris de ces femmes, pour ne pas perdre leur femme, ne vont pas se laisser faire. Demande la Gemara Yahi Aviv Nami, pourquoi la Mishnah permettait à ces femmes de se marier aux frères ou aux fils des suspects, et pourquoi pas aussi aux pères des suspects? Répond la Gemara, Lomi Baek Amar. Effectivement, elle est permise aux pères des suspects. La Mishnah n'a pas voulu l'exclure. Et voici ce que voulait dire la Mishnah. Lomi Baek Aviv de Baziz Bnemine. Il va de soi que cette femme pourra se marier au père du suspect, il n'y a rien à craindre. Le suspect, donc le fils, ne va pas oser tenter quoi que ce soit. Il a honte de son père. Aval bno de l'obaziz aviv mine emalo kamashmelan. Mais j'aurais cru qu'elle ne pourra pas être épousée par le fils du suspect, étant donné que le suspect, donc son père, va oui tenter sa chance. Il n'a pas honte de son fils. Kamashmelan nous enseigne la Mishnah que même cela est permis. On va réviser Bezrat Hashem, le deuxième chapitre qui s'appelle Ketzad Eshet Achiv.
Dans ce chapitre, le sujet traité sera essentiellement le problème déjà soulevé dans le chapitre précédent. Il s'agit du problème à savoir quelle incidence a le lien qui attache la Yabama, donc la candidate au Yiboum, à son Yabam, à son beau-frère. En effet, dans Masechet Nedarim Dafayin Dalet, cette machloquette aussi sera rapportée plus loin d'Afkaptet Amoubet. Il y a une discussion entre les différents Tanaïm, à savoir, est-ce que le Yabam a le pouvoir d'annuler les vœux que ferait sa Yabama, au même titre qu'un mari peut le faire pour sa femme, ou non. Donc là aussi nous voyons, est-ce que le lien qui attache la Yabama au Yabam est assez puissant pour pouvoir les considérer presque comme étant mariés. Une autre discussion qui a été rapportée dans le deuxième Pérec, il s'agit de savoir est-ce que le Yabam pourrait se marier avec une des proches de la Yabama après que la Yabama soit morte avant qu'on ait pu faire la mitzvah du Hibou. Il est à noter cependant qu'une fois la mitzvah de Khalitsa ou la mitzvah du Hibou accomplie, ce lien n'a plus aucune incidence. Par conséquent, ici, un des frères a fait la Khalitsa ou le Yiboum. Il est vrai que lui n'a pas le droit de se marier avec une des proches de cette Yevama après qu'il ait fait la Khalitsa. Mais son frère, par exemple, lui n'a plus aucun lien avec cette Yevama. Il peut se marier avec n'importe quel des proches, par exemple sa sœur, sa mère, etc. Alors, la Mishnah nous dit, Arba achim, shnaim mehem nesuim shtei achayot. S'il y a quatre frères, dont deux sont mariés avec deux sœurs, ou metu nesuim et achayot, et ceux qui étaient mariés avec les sœurs sont morts sans laisser d'enfants, il se trouve donc que deux sœurs se trouvent ensemble étant candidates au yiboum par les deux frères qui restent. Harelu cholzot velo mikabmot, elles ne pourront faire que la chalitza, elles ne pourront pas faire le yiboum. A priori, ce que la Mishnah veut nous dire, c'est puisque les deux sœurs sont candidates en même temps pour le Yiboum, et cela dans une même famille, aucun des frères ne pourra faire le Yiboum avec ses Yvamotes. Et c'est là parce que si un des frères fera le Yiboum, il se trouve qu'il fait le Yiboum avec la sœur de la candidate, de la deuxième candidate au Yiboum, et cela, les Chachamim l'ont interdit. C'est pourquoi il ne pourra faire que la Khalitsa. Il est vrai que après avoir fait la chalitza à la première des sœurs, le deuxième frère aurait pu faire le yiboum à la deuxième sœur. Mais cependant, les chachamim l'ont quand même interdit, comme le Rashi l'explique plus haut, d'Afkav Gimel Amud Bet, c'est que une fois que cette deuxième candidate au yiboum était interdite au deuxième frère, parce qu'elle était la sœur de la première candidate au hiboum. Donc, par conséquent, il était un moment où on ne pouvait pas faire le hiboum avec cette deuxième sœur. Elle est devenue interdite à jamais et ne pourra plus se marier avec elle. Elle reste au même titre que la femme du frère qui avait déjà des enfants, donc il n'y a pas de mitzvah de hiboum. C'est pourquoi ils ne pourront donc que faire la chalitza. Vim kadmu ve kansu yotsiu. Et si ils se sont dépêchés de faire la mitzvah de hiboum, donc ils sont mariés avec ses femmes, ses sœurs, sans demander l'avis aux chachamim, ils devront les divorcer. Les chachamim ont été très stricts à ce sujet. Rabbi Eliezer Omer, Bet Shammai Omrim Yekayem. Selon l'avis du Bet Shammai, ils pourront garder ses femmes. Ou Bet Hillel Omrim Yotsiu. Bet Hillel disent, selon l'avis de Rabbi Eliezer, qu'ils devront quand même divorcer. Haïta achat mehem asura al ha'echad isurerva. S'il se trouve qu'une de ces candidates au hiboum, donc de ces deux sœurs, était en plus interdite sur un des frères qui était aussi candidat au hiboum par un interdit de erva, d'inceste, par exemple, c'était sa belle-mère, asurba n'aura pas, il est interdit de se marier, il lui est interdit de toute façon de se marier avec elle, et d'ailleurs il n'est même pas concerné par le hiboum. Par conséquent, il aura le droit de se marier avec sa sœur et d'accomplir la mitzvah du hiboum avec sa sœur qui, elle, n'a pas de lien de parenté avec lui. Vehashemi Asur Bishneem, par contre, le deuxième des frères qui n'a aucun lien de parenté avec ses deux sœurs, autre que celui qu'ils étaient mariés avec ses frères défunts, alors ce deuxième frère n'aura pas le droit de faire le hiboum avec aucune des deux, comme ça a été expliqué précédemment dans le Mishnah, il ne pourra faire que la chalitza. Si maintenant une de ses sœurs était interdite sur un des frères, non pas par un issur de herba, qui est l'une des 15 femmes citées dans la première Mishnah de la Maseret, mais issur mitzvah, elle était interdite sur lui par un interdit de mitzvah, c'est-à-dire elle était interdite minatora par un issur de l'otase, par exemple, si elle était mamzeret, elle n'avait pas le droit de se marier avec un des frères, l'autre par exemple était mamzer, ou bien si il s'agit d'une femme divorcée qui ne peut pas se marier avec un Kohen, ve'isur doucha, ou bien elle était interdite par un interdit midrabanan qui s'appelle Shmia, comme ça a été expliqué dans le deuxième Perek. Dans les deux cas, c'est les femmes en question sont concernées par le hiboum, minatora, c'est que midrabanan qui ne peuvent pas et qui ne sont pas concernées par le hiboum. Finalement, donc, son statut ne change pas, choletzet velomika vemet. Elle ne pourra faire que la chalitza, elle ne pourra pas faire le hiboum. D'ailleurs, ce sera dans les deux cas. En d'autres termes, ce que la Mishnah veut nous dire, que le fait qu'en plus qu'elle soit en même temps que sa sœur candidate au hiboum, elle avait un autre interdit sur un des frères, on aurait pu croire que ce frère ne sera pas concerné par le hiboum de cette femme et il pourrait faire le hiboum de la deuxième femme. Alors là, la Mishnah nous enseigne qu'en aucun cas, aucun des frères ne pourra faire le hiboum, ils ne pourront faire que la chalitza. La Mishnah continue. Haïta achat mehem asura al zeh issur erva. Si une de ses sœurs était interdite sur un des yavam par l'interdit de erva, donc c'est par exemple c'était sa belle-mère, vehashmiya asura al zeh issur erva, et la deuxième était interdite sur le deuxième frère aussi par un issur erva, par exemple c'était sa belle-mère. En d'autres termes, les deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs étaient en fait chacune respectivement la belle-mère des deux derniers frères. Alors là, la chassura, s'ils sont morts, si les deux premiers frères sont morts sans laisser d'enfants, ha asura lezé, muteret lezé, ve asura lezé, muteret lezé. Celle qui est interdite sur un diabam parce que c'est sa belle-mère, elle sera permise au deuxième. et celle qui était interdite au deuxième sera permise au premier. Et cela parce que dans notre cas où chacune d'elles est interdite respectivement par un interdit de herva sur un des frères, il se trouve donc que chacun des frères n'est concerné que par une seule yebama, et donc s'il fait le hiboum avec elle, il ne fait pas le hiboum avec la sœur d'une candidate au hiboum. C'est pourquoi il a le droit de le faire. Bezu ishabu, là-dessus les chachamim ont dit, achota kesheib yebimta, la sœur de la herva, donc c'est une des 15 femmes citées dans la première mishnah de la Masechet, si aussi en même temps elle est candidate au hiboum dans la même famille, ocholetet omitia bemet, elle pourra faire soit la chalitza, soit le hiboum. La Gemara reprend le premier cas de la mishnah, qui donc parle de 4 frères dont 2 étaient mariés avec 2 sœurs, et ceux qui étaient mariés avec les sœurs sont morts sans laisser d'enfants. Il se trouve donc que les 2 sœurs sont candidates au hiboum ou à la khalitsa chez les 2 derniers frères qui restent. La Mishnah nous dit qu'ils ne pourront faire que la khalitsa et pas le hiboum. Alors la Gemara dit, Shma Mina, nous pouvons déduire de cette partie de la Mishnah, Yesh Zika, que le lien qui attache la Yebama au Yabam a une incidence. Pourquoi? Les i en zika, parce que si nous disons que ce lien n'a aucune incidence, mirde hanem mitrebateka atian, puisque finalement ces 2 femmes proviennent de 2 maisons différentes, elles étaient mariées à 2 maris différents, donc chacune d'elles est concernée séparément par le hiboum. Hay lea bemchada, ve hay lea bemchada, on n'avait qu'à dire qu'un des frères fasse le hiboum avec l'une d'elles, et l'autre frère fasse le hiboum avec l'autre. Puisque si nous disons que ce lien qui attache le Yabam à la Yabama n'a aucune incidence, nous ne dirons pas donc qu'il y ait un interdit de se marier avec la sœur d'une candidate au hiboum. La Gemara répond, le Olam et Malecha Enzika. Toujours pourrais-je te dire que le lien qui attache le Yabam à la Yabama n'a aucune incidence. Je vois pourquoi quand même la Mishnah nous enseigne qu'on n'a pas le droit de faire le hiboum. Ou Mishum de Kassavar assur le Vatel Mitzvat Yabami. La raison pour laquelle donc le hiboum est interdit, c'est parce qu'on n'a pas le droit d'annuler la mitzvah de faire le hiboum. Alors la Gemara explique, Dilma admiya bemchad mayit idach, parce que si l'un des frères faisait le hiboum, il se peut qu'entre temps le deuxième frère meure avant d'avoir fait la mitzvah du hiboum ou de chalitza, vekamevatel mitzvah yibami. Et finalement, la mitzvah du hiboum se trouve étant annulée. En effet, puisque le premier Yabam a fait le hiboum avec la première des sœurs, avec une des sœurs, il se trouve donc que la deuxième se trouve étant exemptée de la mitzvah du hiboum, puisqu'elle fait partie des 15 femmes citées dans la première Mishnah de la Maseret. Il se trouve donc que la mitzvah du hiboum étant annulée, et on n'a pas le droit de faire en sorte que s'annule une mitzvah de la Torah. C'est pourquoi les Chachamim ont dit qu'ils ne pourront faire que la Khalitsa, et pas le hiboum. Il est vrai que après que un des frères ait fait la khalitsa à une des sœurs, le deuxième aurait pu faire soit la khalitsa soit le hiboum, mais nous avons déjà expliqué dans la Mishnah que les chachamim l'ont aussi interdit, puisque au départ elle était interdite un instant de faire le hiboum. Cet interdit reste pour toujours et elle ne pourra plus faire le hiboum. La Gemara demande, si la raison pour laquelle les Chachamim ont interdit de faire le hiboum dans notre Mishnah, c'est parce qu'on n'a pas le droit d'annuler la mitzvah de faire le hiboum, Tlatanami, pourquoi est-ce que la Mishnah nous a parlé de 4 frères? La Mishnah aurait pu nous enseigner le même chidouche avec 3 frères. Si nous expliquons que la raison de la Mishnah qui dit qu'on n'a pas le droit de faire le hiboum, c'est parce que le lien qui attache le Yabam à l'Yabama a une incidence, alors là, il y a un chidouche en enseignant 4 frères. En effet, plus loin, dans la Gemara d'Afka, peut-être, il sera cité une machloquette, à savoir dans le cas où il y a 2 candidats au hiboum, donc 2 yabam, il se peut que le lien qui attache le yabam à la yabama n'a pas d'incidence, bien que, selon ce même avis, s'il y a un seul yabam, le lien qui attache le yabam à la yabama a une incidence, et la raison est simple. C'est parce que dans le cas où il y a un seul yabam, il est évident qu'il devra faire ou la khalitsa ou le hiboum. C'est pourquoi ce lien est plus fort. Par contre, quand il y a 2 yabam, on ne pourra pas savoir à l'avance qui c'est qui fera le hiboum ou la khalitsa. ce lien est plus faible. On aurait pu croire donc que la halakha enseignée par la Mishnah ne concerne qu'un cas où il y a trois frères. C'est pourquoi la Mishnah nous précise que même dans le cas de quatre frères, quand même, ils ne pourront faire que la khalitsa palibum parce que le lien qui attache le yabama et le yabama est fort. Par contre, si la raison de la Mishnah est parce qu'on n'a pas le droit d'annuler la mitzvah de yiboum, il n'y a aucune différence et pas plus de chidouche si nous parle de trois ou de quatre frères. Alors, la Gemara répond, l'homme ibaya kaamrina. En fait, la Mishnah quand même nous a enseigné un chidouche. L'homme ibaya tlata devadai bat la mitzvah tivani. Il est évident que s'il y avait trois frères, il est évident qu'il ne pourra pas faire le yiboum, il sera obligé de faire la khalitsa. Parce que là, il est sûr qu'il va annuler la mitzvah de faire l'hiboum. En effet, s'il fait l'hiboum avec une des sœurs, il n'y a personne d'autre pour faire le hiboum ou la khalitsa à la deuxième sœur, et le premier, enfin, celui-là donc, qui a fait l'hiboum, ne pourra en aucun cas faire ni la khalitsa ni le hiboum, parce qu'elle est devenue un interdit de herba, comme nous l'avons expliqué, aval, d'aller. Mais par contre, si dans un cas de quatre frères, nous aurions pu dire que l'émita, le chayshinam, qu'on ne craint pas qu'un des frères ne meure, en attendant avant de faire la mitzvah de l'iboum. Et en fait, nous aurions dit que dans le cas de quatre frères, chacun pourrait faire séparément la mitzvah de l'iboum avec l'une des sœurs. Kamash malam, c'est pourquoi la Mishnah nous enseigne que même dans le cas de quatre frères, ils ne pourront pas faire le iboum, on craint qu'un des frères meure. Tagmar demande, si c'est comme ça.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On tourne dans la page d'Adar Kavar Amoudbet. Chamisha, Nami, même dans le cas de 5 frères aussi, il devrait avoir la même halakha, c'est-à-dire que s'il y a 5 frères dont 2 étaient mariés avec 2 sœurs et ils meurent sans laisser d'enfants, il se trouve donc que les deux sœurs en question se trouve étant candidate au hiboum avec trois yabam, et nous aurions enseigné dû dire donc la même halakha qu'ils ne pourront faire que la khalitsa et pas le hiboum, de peur que la mitzvah de hiboum soit annulée. La Gemara répond, les mitzvahs étaient lo chayshina. On ne craint pas que deux frères meurent. En d'autres termes, puisqu'il y a trois frères qui peuvent faire le hiboum, et si l'un fait le hiboum à l'une des sœurs, il reste encore deux frères qui ont le choix et la possibilité de faire le hiboum avec la sœur qui reste. Nous ne craignons pas que les deux ne meurent avant de pouvoir faire la mitzvah de hiboum ou de khalitsa. Et par conséquent, dans le cas de cinq frères donc, où il reste trois frères qui ont la possibilité de faire soit le khalitsa ou le hiboum, le din de la Mishnah ne s'appliquera pas et ils pourront même faire le hiboum. Par contre, selon l'avis qui dit que le lien qui attache le Yabama à l'Yabama a une incidence, même dans le cas de cinq frères, donc il reste trois frères qui ont la possibilité de faire la Khalitsa ou le Yiboum, ils n'auront pas le droit de le faire parce que le lien a une incidence. Celui qui fera le Yiboum le fera en fait avec la sœur de la candidate au Yiboum, et par conséquent, ils ne pourront faire que la Khalitsa. L'Agmara continue. Il faut lire ici Amar Rabba Baravuna Amarav, Shalosh Achayot Yebamot Shunaflu Lifnei Shnei Achim Yebamim. Le cas de trois sœurs qui se trouvent étant candidates au Yiboum devant deux frères qui sont Yabam. En d'autres termes, il s'agit d'une famille où il y avait cinq frères, dont trois étaient mariés avec trois sœurs, et ceux-ci sont morts sans laisser d'enfants. Il se trouve donc que les trois sœurs se trouvent étant en même temps candidates au Yiboum devant les deux frères. Alors, la halakha est, Zé Choletz Leachat, un des frères fera la Khalitsa à une des sœurs, Zé Choletz Leachat, et le deuxième fera la Khalitsa à une deuxième sœur, Dem Tsaït et celle du milieu. En fait, il s'agit de la dernière, mais l'Agmar emploie le terme de celle du milieu parce que, comme nous le verrons, elle fera l'acte de Khalitsa chez les deux frères. Tzricha Khalitsa Mishnehem aura besoin d'une Khalitsa des deux frères. Amarle, Rabba lui a demandé à Rabba Baravuna, Mideka Amartem Tsaitzricha Khalitsa Mishneem, puisque tu dis que celle du milieu, donc la dernière, a besoin d'une Khalitsa des deux frères. Kasavav, Yevzika, nous comprenons donc de là que tu penses que le lien qui attache le Yabamala et Bama a une incidence, et par conséquent, Behaviala, Khalitsa Psula, dans ce cas, il se trouve que c'est une mauvaise Khalitsa. En effet, comme ce sera expliqué plus loin, Dafmem Amoudbet, les Chachamim ont interdit de se marier avec la sœur ou une autre proche de la femme à laquelle il a fait Khalitsa, parce qu'elle pourrait être confondue avec la sœur ou la proche parent de son ex-femme. Il se trouve donc dans notre cas où les deux frères avaient précédemment fait la Khalitsa respectivement à une sœur de cette troisième candidate au Yiboum. Il se trouve donc que ses frères ne pouvaient en aucun cas se marier avec elle, donc faire la mitzvah de Yiboum. Ils ne pouvaient faire que la Khalitsa. Puisqu'en général, la Khalitsa est un substitut au Yiboum, dans notre cas où elle ne peut pas se substituer au Yiboum, puisque de toute façon on ne peut faire que la Khalitsa et pas le Yiboum, il se trouve que c'est une mauvaise Khalitsa. On appellera ça une Khalitsa de second choix. Nous noterons ici cependant, comme le souligne le Tosfot, que nous considérons cette Khalitsa comme étant une Khalitsa de second choix, que dans le cas où la raison pour laquelle le Yabam ici ne peut pas faire le Yiboum, c'est un problème qui porte atteinte au lien qui attache le Yabam à la Yabama. Donc par exemple, si c'est un problème de Herva, ou ce qui ressemble à une Herva, Midrabanan même, par exemple, la sœur de celle qui est candidate au Yiboum, donc tout ce qui a trait à l'incidence qu'a le lien qui attache le Yabam à la Yabama, ou bien si par exemple c'est un problème de la sœur de la femme à laquelle il a fait la Khalitsa. Donc là aussi, comme nous l'avons expliqué, la Chachamim l'ont interdit parce que cela ressemble à la sœur de son ex-femme. Donc finalement, là aussi ça ressemble à une herba. Dans ce cas-là, nous considérons que la Khalitsa est une mauvaise Khalitsa. Si c'est pour une autre raison qui est extérieure à cela, par exemple si c'est parce que c'est un issour de l'Ota Asé, même si par exemple les Chachamim l'ont interdit de faire le Yiboum, comme l'Agma l'a expliqué précédemment, pour ne pas annuler la mitzvah du Yiboum, nous ne considérerons pas ici cette Khalitsa comme étant une Khalitsa, une mauvaise Khalitsa. En tout cas donc, nous voyons aussi que dans notre cas, il s'agit d'une mauvaise Khalitsa, et nous verrons donc que ce que Rabba Barabuna nous a enseigné, que « V'Khalitsa psula tzricha l'achzor al kol ha'achim ». Dans le cas où nous avons une mauvaise Khalitsa, il faudra sans retourner à tous les frères, chez tous les frères, en d'autres termes, tous les frères devront faire cette Khalitsa. Et cela, parce que le lien qui attache le Yabam à la Yabama est fort, a une incidence. Par conséquent, nous disons qu'une Khalitsa de second choix n'a pas le pouvoir de trancher le lien qu'a cette Yabama dans la famille. Chacun des frères devra trancher son lien. Nous noterons cependant que cet enseignement ne peut être compris que si nous disons que le lien qui attache le Yabam à la Yabama a une incidence. Par contre, si nous disons que ce lien n'a pas d'incidence, même une Khalitsa quelconque pourrait suffire à trancher le lien qui attache la Yabama à cette famille. Il serait donc impossible de dire que cette Yabama aura besoin d'une Khalitsa de tous les frères. La Gemara demande, Yachi Kamaitanami, finalement, puisque il s'agit ici d'une Khalitsa Psula, alors même le premier aussi aurait eu besoin d'une Khalitsa de tous les frères, puisque finalement aucune de ses sœurs ne peut avoir le Yiboum, puisque finalement dans chacun des cas, chacune de ses sœurs est aussi une sœur d'une candidate au Yiboum, ils ne peuvent faire que la Khalitsa, et par conséquent, tous les frères, les deux frères auraient dû faire la Khalitsa à toutes les trois sœurs. L'Agma répond, si elles sont tombées en même temps en Yiboum, ou comme le précise Rashi, si elles sont toutes les trois à la fois candidates au Yiboum à un moment donné, alors il est vrai qu'il s'agira ici d'une Khalitsa Psula, et les deux frères devront faire la Khalitsa à toutes les trois. La Tzricha, mais par contre l'enseignement de Rav Barabuna au nom de Rav, est dans un cas où de la foule besoin à Khazou, où elles sont tombées l'une après l'autre, elles n'étaient jamais ensemble candidates au Yiboum. À ce moment-là, Nafla Chada Chalatzla Ruven, si une d'elles, quand donc le premier frère est mort, sans laisser d'enfant, il y a la première des sœurs qui se trouve étant candidate au Yiboum. Alors, Khalatzla Rouven, Rouven lui fera la Khalitza. Naflaïda Khalatzla Shimon, quand la deuxième se trouve étant candidate au Yiboum à la suite de la mort de son mari, c'est Shimon qui fera la Khalitza. Naflaïda, quand la troisième tombe en Yiboum, donc devient candidate en Yiboum à la suite de la mort de son mari, à ce moment-là, Khalatzla Hay Mafka Zikato, le premier des frères lui fera la Khalitza pour trancher le lien qui l'attache à celle-ci. Khalatzla Hay Mafka Zikato. Et puis le deuxième des frères fera la Khalitza pour trancher le lien qui l'attache à cette Yebama. En fait, il faudra noter ici que cette loi n'est pas entièrement obligatoire. En effet, quand la première des sœurs se trouvait en candidate au Yiboum, Rouven avait le choix de faire ou la Khalitza ou le Yiboum. Et quand la deuxième se trouvait en candidate au Yiboum, il est vrai que Rouven ne pouvait rien faire, soit s'il avait fait la Khalitza, soit le Yiboum, puisque c'était soit la sœur de sa femme, soit la sœur de celle dont il avait fait Khalitza. Mais Shimon aussi avait le choix de faire soit la Khalitza, soit le Yiboum. Mais en fait, ce que Rabba Bar Avuna vous nous enseignez, que dans le cas où Reuven avait fait la Khalitza la première, Shimon sera obligé, lui, de s'occuper de la deuxième, soit de faire la Khalitza, soit de faire le Yiboum. Dans le cas où Shimon avait fait la Khalitza à la deuxième, alors quand la troisième sera candidate au Yiboum, elle devra faire la Khalitza chez les deux frères. La Gemara demande, Beha Amar Rav en Zika. Voici que nous avons vu dans le Perek précédent que Rav tenait que le lien qui attache le Yabama à l'Yabama n'a pas d'incidence. En effet, Rav nous avait enseigné qu'un Yabam avait le droit de se marier avec une proche de sa Yabama si elle vient à mourir avant qu'il ait fait la mitzvah de Khalitza ou de Yiboum. Ça veut dire que ce lien qui attache le Yabama à l'Yabama n'a aucune incidence. L'Agma répond, les divrei Haomer yesh zika kama. En fait, l'enseignement de Rabba Bar Avuna était selon l'avis de celui qui pense que le lien qui attache les Abam à l'Abama a une incidence. Par contre, si nous pensons, comme nous l'avons expliqué plus haut, que ce lien n'a pas d'incidence, de toute façon, même une mauvaise Khalitza, ou une Khalitza quelconque, pouvait trancher le lien qui attache les Abam à l'Abama, faute de mieux. Ou Shmuel Amar, et Shmuel dit, Echad cholet le kulam. Dans le même cas donc de trois sœurs qui se trouvent étant candidates au Yiboum, un des frères pourra faire la Khalitza à toutes ses sœurs. Alagmara demande, Mirde Shaminan le Shmuel Damar Khalitza Maria Bainan. Voici que nous avons appris par ailleurs que Shmuel pense qu'il faut toujours choisir la meilleure Khalitza. Damar Shmuel, parce que nous avons vu que Shmuel a dit.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.